Je vous invite ce matin à venir avec moi, à retourner à Jérusalem. Nous sommes avec Jésus, c'est la fête de Pâques, la grande fête. Nous sommes dans le temple et nous allons relire ce passage que nous avons déjà vu ensemble il y a 15 jours. Ce passage que nous connaissons comme étant celui des vendeurs du temple, Jean chapitre 2, à partir du verset 13. Jean chapitre 2, verset 13. La Pâque des Juifs était proche. Et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Et il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici et ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvèrent qu'il est écrit, « Le sel de ta maison me dévore. » Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, « Mais quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Et Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui dirent, « Mais il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras ?» Mais il parlait du temple, de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Amen. Alors avant d'avancer dans le propos de ce message ce matin, je voudrais nous replacer dans le contexte que nous avons déjà évoqué il y a 15 jours ensemble, c'est donc la Pâque à Jérusalem, et des milliers de Juifs de toute la diaspora sont montés pour célébrer leur fête, la fête des Juifs, la plus importante de toutes, la Pâque donc. Et il était de coutume qu'en arrivant, les hommes commencent par s'acquitter de l'impôt du temple, qui devait être payé dans la monnaie spécifique du temple. Ce qui veut dire qu'ils devaient échanger leur devise considérée comme impure auprès d'échangeurs établis dans la partie du temple appelée la cour des nations, seul endroit où les non-juifs pouvaient prier dans ce secteur du temple. Mais ce n'était pas tout. Ils devaient aussi offrir des sacrifices. Certes, il y aurait l'agneau de Pâques dans quelques heures, mais avant cela, pour leur famille et eux-mêmes, ils devaient offrir un sacrifice expiatoire pour leurs péchés, selon leurs moyens, un bœuf, un agneau, une brebis, ou, s'ils étaient plus pauvres, une colombe. Et à cause des distances, les familles juives préféraient acheter un animal sur place, auprès des marchands de bestiaux qui se trouvaient là aussi, dans cette partie du temple. Et nous l'avons vu, tout cela faisait partie des us et coutumes en vigueur et personne n'y voyait trop de mal, même si on savait fort bien que les prix et les commissions pratiquées étaient exorbitants. Personne n'y voyait de mal, sauf Jésus, qui fit alors une entrée fracassante dans la vie publique d'Israël en manifestant une colère non feinte à l'égard de tout ce commerce, de tout ce trafic qui se passait dans cette partie du temple. Et s'étant confectionné un fouet avec des lanières, il dispersa les animaux, renversa ensuite les tables des changeurs, créant ainsi une belle panique et un beau brouhaha. Et c'est ainsi que Jésus manifesta son zèle pour la maison de son père. Mais il déclencha aussi une vive réaction de la part des Juifs. Vive réaction qui ne fit qu'empirer lorsque le Seigneur leur dit ceci, « Détruisez ce temple en 3 jours, et je le relèverai. » Oh, Jean nous le rappelle, des fois que nous l'aurions oublié, Jésus ne faisait pas ici allusion au temple de pierre construit par les rois, mais il parlait de son corps. Son corps que les hommes tentèrent de détruire en le clouant à la croix, mais que Dieu releva par sa puissance 3 jours plus tard. Et nous le croyons et le proclamons, Jésus est le Seigneur du temple, il est le temple de Dieu. Je veux ce matin m'arrêter sur le dialogue entre Jésus et les Juifs autour de cette question du temple. Et nous allons voir que par rapport au texte tel que nous l'avons sous les yeux, et la plupart nous avons une version seconde, il nous réserve quelques surprises. Et nous allons voir aussi qu'au-delà d'un échange, oui, assez vif, mais qui nous paraît très lointain de nos réalités, cette question autour du temple, nous allons voir que ce texte a beaucoup à nous enseigner concernant notre propre conception de ce qu'est l'Église de Jésus-Christ et de notre propre corps. Alors je veux commencer en vous rappelant ce point que nous avions évoqué, quelle était la structure du temple de Jérusalem. Le temple était un vaste édifice comprenant de nombreux espaces. Il y avait des cours, il y avait des colonnades ou des portiques tels que nous les trouvons par exemple dans la rue de Rivoli. Il y avait des vestibules dans lesquels les lévites et les prêtres se préparaient. Il y avait des chambres de stockage. Et puis il y avait aussi, au cœur de cet édifice, le bâtiment central, celui que nous appelons le lieu saint. Et dans une cour de ce temple, il y avait les marchands, dans la cour appelée Parvis des Nations. Pour désigner tout cet ensemble architectural, Jean utilise un mot qui est traduit, par exemple, au verset 14 et 15, par « temple ». Le temple. Laissez-moi vous donner ce mot, peu importe si vous le retenez, mais retenez-le pendant le message, oui. En grec, c'est « hieron », H-I-E-R-O-N, qui parle donc de l'ensemble des constructions qui étaient là sur cette colline de Morija. Tout ceci était considéré comme le temple, à l'exception d'une cour. La cour des nations, le seul lieu où les non-juifs pouvaient prier, l'endroit où les marchands de bêtes se réunissaient, ce lieu était certes attaché au temple, mais il était malgré tout considéré comme extérieur au temple. C'est important. Donc Jean parle du hieron, le temple. Les juifs parlent du hieron, le temple. Mais quand Jésus parle du temple, dans ce dialogue, il n'utilise pas le même mot. Il ne parle pas du hieron, mais il utilise un autre mot en grec, le naos, N-A-O-S. Et la véritable traduction de ce mot, c'est sanctuaire, le sanctuaire. Or, pour les Juifs, ce mot naos, sanctuaire, c'est un lieu très particulier du temple. Ce n'est pas tout le temple, mais c'est le bâtiment dans lequel se trouvait le lieu saint, où seuls les prêtres pouvaient rentrer, et encore plus le lieu très saint, dans lequel seul le grand prêtre pouvait pénétrer une seule fois par an lors de la fête des expiations, parce que c'était le lieu où Dieu demeurait. Alors on saisit mieux l'émoi des Juifs lorsque Jésus va leur dire « Détruisez ce naos ». Comment ça ? Détruire le lieu où Dieu demeure ? Mais pour eux, c'était plus qu'un choc. C'était un blasphème. C'était un sacrilège de dire une chose pareille. Nous comprenons aussi qu'en utilisant ces deux mots pour temple, hieron, naos, Jean veut nous montrer donc qu'il existe un décalage entre la perception des Juifs et celle de Jésus quant à la maison de Dieu. En distinguant entre les différents lieux du temple, en concevant qu'il y avait donc le hieron et le naos, les Juifs avaient introduit une compartimentation du temple. Il y avait donc le naos. Le naos, c'est le lieu saint. C'est le lieu à part. C'est le lieu sacré dans lequel seuls les prêtres pouvaient y pénétrer. Et puis il y avait les cours du hieron. Il y avait des cours très importantes comme la cour des Juifs, des hommes juifs. Et puis il y avait la cour des femmes, des enfants. Et puis là, tout loin, tout au bout, il y avait la cour des nations, des non-juifs, où l'on mettait les bestiaux parce qu'elle était suffisamment éloignée du sanctuaire pour se permettre d'y mettre les bêtes. Ça, c'était la vision des Juifs. Nous allons voir que ça va nous parler à nous aussi. Maintenant, qu'en est-il de la perception de Jésus ? Tout d'abord, pour lui, le temple, c'est avant tout la maison de son Père. C'est le lieu où Dieu habite parmi les hommes. Et à ce titre, elle doit être profondément aimée, respectée et sanctifiée. Ce à quoi les Juifs ne pouvaient qu'agréer, parce qu'eux aussi étaient très soucieux de la sainteté de la maison de Dieu. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas la même conception de ce qu'était la maison de Dieu que Jésus. Pour eux, la maison de Dieu n'avait pas la même étendue que celle de Jésus. Car pour les Juifs, la maison de Dieu se limitait donc au sanctuaire, au naos, au lieu très saint, plus quelques cours importantes autour. Mais pas la cour des nations, parce que celle-là, elle était à l'extérieur, c'est moins grave. Mais maintenant, la conception de Jésus quant à la maison de son père est tout à fait différente, parce que pour Jésus, la maison de son père ne se résumait pas simplement au sanctuaire, c'est-à-dire au lieu saint, lieu très saint. Mais la vision de Jésus quant à la maison de son père s'étendait à tous les différents éléments du temple au sens large, jusqu'au parvis des nations. Qu'est-ce qu'a dit Jésus au vendeur de pigeons ? Ôtez ceci de la maison de mon père. Pour Jésus, la cour des nations, considérée par les Juifs comme étant à l'extérieur du temple, était pour Jésus à l'intérieur même du temple, c'était la maison de son père. Dans l'esprit de Jésus, c'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y a pas de différence entre Hieron et Naos. Tout est la maison de Dieu. Là où les Juifs faisaient des compartiments, Jésus ne voyait qu'un seul lieu, lié, uni dans ses différentes parties. Et il considérait tout l'ensemble comme étant le sanctuaire de Dieu. Et pour Jésus, tout l'ensemble était très saint. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'il raconte ce matin le pasteur, à part nous faire de l'architecture et nous raconter des trucs qui remontent à 2000 ans, mais quel rapport avec nous ? L'évangile, c'est la parole de Dieu. Et vous allez voir que tout ce que je viens de dire en préambule, pour nous mettre un peu dans le contexte, pour comprendre ce qui se passe entre Jésus et les Juifs, maintenant ça va nous parler. Venons-en à la parole de Jésus, concernant son corps. Jésus dit donc aux Juifs, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Et quand Jésus parle du temple de son corps, le mot qu'il utilise, c'est « naos ». Non pas « hieron », mais « naos ». Car Jésus considérait que son corps était le sanctuaire de Dieu. Son corps était, et il demeure très saint. L'apôtre Paul a écrit dans Colossiens 2:9, « En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Nous croyons que Jésus est le sanctuaire de Dieu. Vous le croyez ? Il est saint, il est très saint. Ok, gardons ça en tête et maintenant allons dans la première épître aux Corinthiens et tournons-nous vers 2 enseignements de l'apôtre Paul qui nous concernent à nous directement. Vous voyez, on s'y approche. Dans 1 Corinthiens 3:16, l'apôtre Paul s'adresse à l'église locale de Corinthe. Et au-delà de l'église locale de Corinthe, il s'adresse à toutes les églises locales jusqu'à la nôtre aujourd'hui. Et il leur pose cette question, 1 Corinthiens 3:16. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ?» et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Quel mot, à votre avis, utilise l'apôtre Paul pour dire que l'Église est le temple de Dieu ? Hieron ou Naos ? On peut donc le traduire plus finement, « Ne savez-vous pas que vous êtes le sanctuaire de Dieu ?» Jésus est le sanctuaire de Dieu, le lieu très saint où Dieu habite, l'église locale est le sanctuaire, le lieu très saint où Dieu habite, la maison de Dieu. Allons un peu plus loin, 1 Corinthiens 6:19. Maintenant l'apôtre Paul s'adresse à chacun d'entre nous, à nous, disciples de Jésus-Christ, et il écrit « Ne savez-vous pas que votre corps, ton corps, mon corps, est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu. » Même question. Quel mot Paul a-t-il utilisé pour parler du temple qu'est mon corps ? Hieron ou Naos ? Naos. Ne savez-vous pas, ne sais-tu pas, que ton corps est le sanctuaire de Dieu ? Jésus est le lieu très saint, le sanctuaire de Dieu. L'Église est le lieu très saint, le sanctuaire de Dieu. Mes frères et sœurs, quelle déclaration ! Je suis le lieu très saint, le sanctuaire de Dieu. Je suis le Naos de Dieu. Rappelez-vous dans le tabernacle, le lieu très saint. Je suis ce lieu très saint. Rappelez-vous dans le temple de Salomon, le lieu très saint. Je suis ce lieu très saint. Alors une question se pose alors, si Jésus considère l'Église et mon corps comme son sanctuaire, comment est-ce que je les perçois moi-même ? Quelle dimension je mets moi-même dans le mot temple ? Est-ce que je vois l'Église comme le Hieron ou comme le Naos ? Est-ce que je vois mon cœur comme le Hieron ou comme le Naos ? Est-ce que je me cantonne dans une perception semblable à celle des Juifs ? Il y a le Naos et puis il y a tout à côté. Ou alors est-ce que j'embrasse celle de Jésus pour dire que tout est Naos ? Tout est sanctuaire. Certains disent ou pensent, frère, mon cœur, mon esprit, c'est le sanctuaire du Saint-Esprit. Le Naos de Dieu. Ben, ils vont nous dire à côté, mon corps, c'est le Hieron. Parce que vous comprenez, je vis dans le monde, je travaille, j'ai des activités, je rencontre des gens. Alors oui, mon cœur, rassurez-vous, tout entier à Dieu, mais mon corps, lui, c'est un peu le Hieron. C'est une zone intermédiaire. Et il y a des choses qui sont vraiment intermédiaires dans ma vie, jusqu'au point de dire, il y a des choses qui sont un peu extérieures dans ma vie au temple de Dieu. Et là, c'est vrai, je tolère des marchands. Je tolère des vendeurs de bestiaux. C'est pour faciliter les choses. Parce que dans mon lieu de travail, vous comprenez, c'est difficile d'être Naos de Dieu. Avec mes amis, c'est difficile d'être Naos de Dieu. Comment être dans cette ville de Paris constamment un Naos de Dieu ? Il me faut forcément des zones intermédiaires. Le Seigneur me pardonne. Que tolérez-vous ? Que tolérez-vous ? Est-ce que c'est la vision de Jésus ? Non. Non. Oui, mon cœur est le temple du Saint-Esprit, mais mon corps l'est pareillement. Mon corps est le sanctuaire de Dieu. Depuis l'extrémité de mes cheveux jusqu'au bout de mes ongles, je suis le lieu très saint de Dieu. Je suis le lieu très saint de Dieu dans mes pensées. Je suis le lieu très saint dans mes paroles. Je suis le lieu très saint dans mes actions. Je suis le temple du Saint-Esprit. Ce que je vois, Dieu le voit. Ce que je touche, Dieu le touche. Là où je vais, Dieu va. Ce que je dis, Dieu le dit. Pourquoi ? Parce que je suis le temple du Saint-Esprit. Alors, que fais-tu voir à Dieu ? Que fais-tu dire à Dieu ? Où amènes-tu Dieu ? Si tu es le Naos, sois conscient de cela. Parce que Dieu vit en toi. Et c'est d'ailleurs à ce propos que Paul nous met en garde contre la débauche sexuelle. Pour lui, pour la Bible, la débauche sexuelle, c'est toute relation sexuelle en dehors du mariage entre un homme et une femme. Et il écrit en Corinthiens 6, 18, « Fuyez la débauche, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le sanctuaire du Saint-Esprit ? » Et c'est là qu'il dit de ne pas se joindre à la prostituée. Comment tu Si tu vas vers la prostituée, tu ne fais qu'une seule chair avec elle. Et elle, tu l'associes au temple du Saint-Esprit. Mais sans parler de la prostituée, toute relation sexuelle en dehors du plan de Dieu porte atteinte à la sainteté du temple que nous sommes en Jésus-Christ. Jésus est le Naos de Dieu. Il est le Saint des Saints. L'Église qui est son corps est aussi le sanctuaire de Dieu. Elle est une habitation de Dieu en esprit. Et pareillement, nous, disciples de Jésus-Christ, membres de son corps, nous sommes aussi le Naos de Dieu. Mon corps ne m'appartient plus. Et je vais vous le dire. Il est faux de dire « je donne mon cœur ». La vérité, c'est qu'il faut dire « je donne mon corps ». Qu'a écrit Paul, Romains 12 ? Offrez vos cœurs. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à notre Dieu. Mon corps ne m'appartient plus. Il a été racheté à un grand prix, celui du sang de Jésus-Christ. Il appartient dès lors à Dieu. Mon corps est très saint et le Saint-Esprit vit en moi. Juste ce point, Tel est le corps de Jésus, le sanctuaire de Dieu, telle est l'église, le sanctuaire de Dieu. Les hommes ont voulu détruire le corps du Seigneur, Dieu le releva, et le Seigneur a promis que les portes du séjour des morts ne prouveront pas contre son église. Mais vient le jour où Jésus viendra chercher son église pour la glorifier en faisant d'elle son épouse céleste. Jésus est le sanctuaire de Dieu. Mon corps est le sanctuaire de Dieu. Et le Seigneur nous promet que si la maladie, la mort, viendrait à détruire ce corps qui est le sanctuaire de Dieu, au jour de la résurrection, le Seigneur le relèvera et le glorifiera. Parce que ce n'est pas la mort qui sera victorieuse. Alléluia. Et j'en arrive maintenant à ce point. Préserver la sainteté du Naos, la sainteté du sanctuaire. Si à cause de leur vision biaisée de la maison de Dieu, les Juifs ne voyaient aucun mal à la présence des changeurs et des marchands dans la cour des nations, pour eux c'était à l'extérieur, ils avaient à l'opposé un très grand respect pour les parties intérieures du temple. Et plus on s'approchait du lieu très saint, plus on s'approchait du sanctuaire, de la présence de Dieu, et plus les conditions pour s'y tenir devenaient drastiques et restrictives, au point que seul le grand prêtre pouvait rentrer une fois par an dans le lieu très saint. Il fallait à tout prix préserver la sainteté des lieux à cause de la présence de Dieu. Et c'est aussi une question de zèle pour la sainteté de Dieu et de sa maison qui poussa Jésus à remettre de l'ordre dans la cour des nations et à chasser les vendeurs. Alors maintenant, cette question, réfléchissez à cela. Si Jésus s'est mis en colère à propos de la cour des nations, qui était le lieu le plus éloigné du sanctuaire de Dieu, que dirait-il s'il voyait quelque chose d'impur dans le sanctuaire de Dieu même? Et au-delà du sanctuaire, au-delà du temple de pierre, pour son corps, pour l'Église et pour nos corps, qui sont les véritables sanctuaires de Dieu. Pour un juif, rien de ce que la loi déclarait impur ou souillé ne devait approcher de la présence de Dieu. Et c'est vrai qu'ils étaient très zélés dans la défense de cette sainteté. Cependant, Jésus n'avait pas la même conception, la même manière de concevoir les choses saintes que les religieux. C'est étonnant. D'un côté, il chassa les vendeurs de la cour des nations, d'un autre, tout en étant lui-même dans sa chair, dans son corps, le temple de Dieu, le sanctuaire de Dieu, il laissait tout homme, toute femme, quelle que soit sa condition, s'approcher de lui. Jésus était et il demeure le Saint des Saints. Il n'a jamais permis à quelque chose que ce soit de souiller son corps. Lorsque les Romains étaient sur le point de le crucifier, ils ont lui amené la coupe de fiel, vin amer, afin de l'étourdir. Jésus a dit non, c'est impur. Et il n'a pas bu cela, il n'a pas voulu souiller le temple qu'il était. Mais voyez-vous, Jésus a une approche très particulière de la sainteté. Les religieux, qu'ils soient juifs ou chrétiens, et même chrétiens évangéliques, voient la sainteté comme une valeur à confiner, fragile, très fragile, dans une boîte, il faut l'enfermer. Jésus, lui, voit la sainteté comme une puissance à communiquer. Jésus chassa les vendeurs du temple, il ne voulait pas les voir dans la maison de son père, parce que c'était un lieu très saint, tout l'ensemble, mais il accepta de toucher le lépreux. Or, selon la loi, si vous touchiez un lépreux, vous étiez immédiatement considéré comme impur, comme souillé. Mais Jésus s'est approché du lépreux. Et il n'a pas considéré que toucher le lépreux porterait atteinte à sa sainteté. Par contre, en touchant le lépreux, il a communiqué sa sainteté au lépreux et il a purifié le lépreux. Alors qu'il était invité chez Simon le pharisien, invité à manger, et qu'ils étaient tous ensemble réunis autour de la table basse, assis sur des coussins allongés, Simon n'avait pas exercé les lois coutumières de l'hospitalité en lavant les pieds de Jésus, son hôte. Pourquoi n'avait-il pas fait? Bien, ça le regarde. Mais il y avait là, dans un côté peut-être de cette maison, une femme. Quelle drôle de femme. Femme de mauvaise réputation. Que fait-elle là? On connaît sa vie. Que fait-elle là? Et voilà que cette femme a vu que les pieds de Jésus n'ont pas été lavés et qu'il va manger. Ça ne se fait pas. Qu'est-ce qu'elle fait là? Et elle s'approcha de Jésus. Elle vint se mettre sans dire un mot aux pieds du Seigneur. Et elle prit soin des pieds de Jésus, les baignant de ses larmes, les essuyant de ses cheveux. Et tous ceux qui devaient être autour de la table basse. Oh, s'il était un prophète, s'il était un prophète, il saurait ce qu'est cette femme. Il ne se laisserait pas toucher par cette femme qui est impure, qui est souillée. Oh, Jésus n'avait aucun problème à laisser cette femme pleurer à ses pieds. Et plus elle pleurait, plus elle baignait de ses larmes les pieds du Seigneur, plus elle les essuyait avec ses cheveux, et plus Jésus lui communiquait un amour qui l'a renouvelé, qui l'a purifié, qui l'a transformé. Alléluia. Prendre un repas avec des amis juifs est parfois très difficile parce qu'ils ont beaucoup de règles. Encore aujourd'hui. Ils y sont très tatillons, et ils étaient très tatillons quant à l'ordonnancement du repas, à tout ce qui devait se passer. Et on ne mangeait pas avec n'importe qui. Et Jésus a été invité chez Lévi. Jésus a été invité chez Zachée, ces collecteurs d'impôts, ces publicains, ces gens qu'on ne côtoie pas. Mais que fais-tu là? Jésus a mangé avec eux. Je ne suis pas venu pour les justes. Je ne suis pas venu pour les bien portants. Je suis venu pour manger avec les pécheurs. Je suis venu pour manger avec les malades, afin de les guérir, afin de changer leur vie. Considérons la femme atteinte de perte de sang. Oh, femme impure, femme souillée. La loi l'exclut, c'est une paria. Personne n'approchera. Surtout, ne la laissez pas vous approcher. Elle pourrait vous toucher, vous seriez souillée. Cette pauvre femme, malade depuis 12 ans, sans espoir, rejetée de toutes, osa s'approcher timidement à travers la foule pour, ne serait-ce qu'un instant, pouvoir saisir le vêtement de Jésus. Mais déjà, c'était trop. Mais elle le fit. Jésus sentit qu'une force sortait de lui. Il se retourna. Qui m'a touché? Elle dit, c'est petit, qui t'a touché? Regarde la foule qui est là. Et là, dans ce coin, il y avait cette femme, peut-être terrorisée. On allait la démasquer, les gens, mais elle est impure, que fait-elle là? Chassez-la. Et Jésus s'est tourné vers elle. Ma fille, tu m'as touché. Ta foi t'a guérie. Jésus a-t-il considéré que cette femme impure l'avait rendue impure? Non, il a purifié cette femme. Considérons la fille de Jairus. Considérons cette pauvre femme veuve qui sort du village de Naïn et qui va enterrer son fils unique. Jésus était considéré comme un naziréen. Et un naziréen ne touche pas un mort, sinon il est souillé. Et quand il est rentré dans la chambre de la fille de Jairus, quand il s'est rapproché du cortège, autour de cet enfant, il a étendu les mains. Il a saisi la fille de Jairus. Il a touché l'enfant mort. Et il les a relevés. A-t-il été souillé parce qu'il avait touché un mort? Non. Il leur a communiqué une puissance de vie. La sainteté de Jésus purifie. La sainteté de Jésus guérit. La sainteté de Jésus donne la vie. Jésus raisonnez et agissez complètement à l'inverse des religieux, qu'ils soient juifs ou chrétiens. Là où les juifs ne voyaient aucun problème avec les marchands, Jésus s'est mis en colère. Par contre, concernant le sanctuaire, et pour lui le sanctuaire c'était son corps, il n'avait aucun problème à se laisser toucher ou à toucher ceux que la loi disait être impurs ou souillés. Jésus ne voyait pas et il ne voit pas la sainteté comme une chose fragile. quelque chose à manipuler avec la plus grande attention, quelque chose à surprotéger, à confiner hermétiquement, comme le sanctuaire était confiné au milieu de la cour. Au contraire, il considère la sainteté comme une puissance de transformation, comme une puissance de purification, une grâce à partager, une grâce à donner, une grâce à communiquer. Avec Jésus, ce n'est pas ce qui est souillé qui altère ce qui est pur, c'est ce qui est pur qui transforme ce qui est souillé. Mais qu'en est-il de nous ? Nous avons parlé des Juifs. Que Dieu les bénisse. Et parlons de nous maintenant, disciples de Jésus-Christ. Trop souvent, on nous a présenté la sainteté aussi comme une valeur fragile, dans un monde corrompu. Il faut mettre la sainteté dans une capsule hermétique. Il faut la protéger, oui, il faut la confiner, en s'imposant toutes sortes de règles, de standards. Alors oui, il faut protéger, défendre notre sainteté, mais laissez-moi vous dire ceci, ce qui altère notre sainteté ne vient pas de l'extérieur, mais vient de l'intérieur. N'est-ce pas ce que Jésus a dit ? Ce n'est pas par l'extérieur que nous sommes souillés, mais ce qui souille l'homme, c'est ce qui sort de l'homme, du cœur de l'homme. Voilà ce qui souille l'homme. Marc chapitre 7, verset 20. Et préserver notre sainteté ne veut pas dire nous soumettre à des commandements d'homme ou à des commandements de religion, ne veut pas dire nous retirer du monde. Mais Jésus a fait de nous des gens saints. Et nous devons changer notre façon de penser, de comprendre la sainteté. Nous sommes les sanctuaires de Dieu, des habitations de Dieu en esprit. Et Dieu nous envoie dans ce monde afin de le sanctifier, afin de le purifier. La sainteté, selon Jésus, c'est une puissance de Dieu, c'est une force et non pas une faiblesse. Ne considérez pas que parce que vous êtes saints, vous êtes exposés dans ce monde. Vous êtes saint, vous êtes une puissance de transformation dans ce monde. Alors en conclusion de tout ce que nous avons dit, nous nous rendons compte que nous avons un texte qui a beaucoup à nous dire. Bien plus que ce qu'on pourrait croire au début de notre lecture. Il va bien plus loin dans ses implications que le simple fait de remettre de l'ordre dans le temple. Tout d'abord, il nous interpelle quant à notre propre conception de ce qu'est la maison de notre Dieu, de notre Père. Où commence la maison de Dieu ? Où s'arrête-t-elle ? Adoptons-nous la vision de Jésus ou nous réfugions-nous dans celle plus accommodante des Juifs ? Mes frères et sœurs, si Dieu mettait sa lumière, nous ne sommes pas là pour nous juger, nous condamner, nous épier, nous mordre, nous dévorer. Mais si nous laissons le Saint-Esprit nous examiner concernant nos pensées sur notre vie, ne révélerait-il pas de nombreuses zones intermédiaires ? Des zones mixtes. Ah Seigneur, je t'aime bien, mais il faut que je fasse avec le monde. Mais mon cœur est à toi, t'inquiète pas. Mais avec mon corps, il faut bien que je vive. La Bible nous enseigne, un, que Jésus est le sanctuaire de Dieu. Deux, que l'Église universelle et locale est le sanctuaire de Dieu. Trois, que parce que racheté par le sang de Christ, je suis aussi le sanctuaire de Dieu. Pas simplement mon cœur, mais tout mon être, esprit, âme et corps. Dans toutes mes prières, oui, mais aussi dans toutes mes pensées, dans toutes mes actions, dans toutes mes paroles, dans l'Église et dans le monde. Dans ma maison et sur mon lieu de travail. Il n'y a pas de zone intermédiaire. Dieu n'a pas conçu dans son plan des cours extérieures, des hiérones. Il dit, vous êtes mon temple, vous êtes mon habitation, vous êtes mon corps. Vous êtes mon corps. Enfin, ce texte nous amène à considérer notre rapport avec la sainteté. Trop souvent, nous concevons la sainteté comme une valeur fragile, au point de développer comme les Juifs tout un ensemble de règles et d'interdits, je m'impose ceci, je ne fais pas comme ça, afin de préserver cette sainteté. Mais je vous l'ai dit, le problème, ce n'est pas ce qui vient de l'extérieur, mais c'est ce qui vient du cœur. Tout à l'heure, je vous disais Nous sommes le temple du Saint-Esprit, nos pieds sont les temples du Saint-Esprit. Ils nous conduisent là où nous voulons les conduire, j'espère. Que c'est la tête qui conduit les pieds, pas le pied qui conduit la tête. Et nous allons parfois dans des lieux, c'est vrai, des lieux qui... On ne va pas y aller. Il y a des lieux où on ne va pas, c'est clair. Mais il y a parfois des moments où nous nous retrouvons dans des situations, dans des lieux, en disant, Seigneur, ce n'est pas à ta gloire. Quand Jésus s'approchait du pécheur comme la femme adultère qui vient à ses pieds, qu'on jette à ses pieds, il lui a dit ce qu'elle était, une femme adultère, une femme pécheresse. Il nous dit les choses telles qu'elles sont. Et quand on va dans des lieux qui ne sont pas à la gloire du Seigneur, c'est vrai, ce n'est pas à la gloire du Seigneur, on ne peut pas se tromper. Mais on y va quand même. Jésus est allé chez Zachée, parce que c'était le temps d'aller chez Zachée. Et parfois, nous devons aller dans des lieux parce que c'est notre travail, parce que c'est ceci, parce que c'est cela, parfois parce que c'est la famille. Le problème, c'est de savoir, est-ce qu'on y va en tant que Naos de Dieu ? Ou si on y va en tant que Yéron. Si j'y vais en me disant c'est un temps d'Yéron, c'est sûr, je vais faire un compromis. Mais si j'y vais en disant Seigneur, je suis ton temple, oui, je vais devoir entendre des choses, je vais devoir aller dans des lieux, c'est pas toujours facile. Sur mon lieu de travail, c'est pas toujours facile. J'entends des choses, parfois on veut même me pousser à faire des choses, mais Seigneur, je suis ton sanctuaire. Et je ne vais pas me laisser altérer, mais je crois que par ta grâce, je vais pouvoir changer les choses. En tout cas, je tiendrai cette position-là. Mais si dans mon cœur, j'ai déjà capitulé, alors c'est sûr, je n'y vais pas comme le Naos, mais j'y vais comme un Yéron. Et j'accepterai de laisser rentrer dans ma vie des marchands, des vendeurs, des changeurs. Et je suis déjà perdu. Nous sommes donc tout entiers les sanctuaires de Dieu. Nous ne concevons aucune zone intermédiaire dans nos vies dans lesquelles pourrait prendre place marchand et changeur. Nous sommes la maison de Dieu. Je suis la maison de Dieu. Tu es la maison de Dieu. Nous sommes saints par sa grâce. Tu es saint par la grâce de Dieu. Nous ne voulons pas développer une approche religieuse de la sainteté, mais nous prenons exemple sur Jésus et nous croyons que la sainteté, c'est une puissance de Dieu à communiquer au monde et qu'avec la puissance du Saint-Esprit, avec la sainteté de Dieu qu'il a mis en nous, Dieu nous a sanctifiés. Nous allons purifier ceux qui sont souillés, impurs, rejetés, méprisés, tout en demeurant saints pour notre Dieu. Quel texte ! Quel texte ! On est parti d'architecture et de jeu de mots. Pour arriver finalement aux choses les plus profondes concernant notre relation avec Dieu. Comment est-ce que je me considère dans le Seigneur ? Puissions-nous laisser le Seigneur nous examiner ? Peut-être est-il nécessaire de faire du ménage dans notre vie ? De dire, ouh, cette zone, je l'ai longtemps considérée comme un Yéron, hein ? Un truc un peu à l'extérieur. Oui, mais ça fait partie de ma vie. Parce que mon temple, c'est aussi ma maison. Ce qui se passe dans ma maison. À mon travail, je suis un temple. Je dois faire attention. Je vais veiller sur ça. Et Seigneur, il y a trop d'Hieron dans ma vie, trop de lieux intermédiaires. Je veux mettre de l'ordre. Parce que je veux être un Naos. Et si je suis un Naos, alors je vais bénir ceux qui sont autour de nous. Si je suis un Yéron, comprenez-le, je m'attarde un peu, j'essaie de vous donner les images, mais si je suis un Yéron, avant que les gens finissent par toucher le saint qui est en nous, eh bien ils vont être dégoûtés. Parce qu'ils vont bien en voir des zones de compromis. Pour dire, eh bien finalement, pour trouver ce qui est de Dieu dans lui, il a fallu qu'on creuse. Hein. Ça me rappelle Lot qui a voulu avertir ses gens que le feu de Dieu arrivait. Et on dit, bah, il est écrit dans la Bible, ils ont trouvé qu'il plaisantait à leurs yeux. Des fois, les gens trouvent qu'on plaisante beaucoup concernant les choses de Dieu. Alors quand on veut leur parler de choses importantes, on dit, mais qu'est-ce qu'il a à nous dire celui-là ? Mais quand on est un sanctuaire de Dieu, saint pour le Seigneur, jusqu'au bout des ongles, les gens, dès qu'ils nous approchent, c'est comme Jésus, ils sentent la sainteté de Dieu. Alléluia. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous sommes émerveillés devant un texte. Que dire de plus? Nous sommes, à travers cette parole, nous sommes placés face à nous-mêmes. Nous sommes mis à nu, à découvert, Seigneur. Ta parole nous dit qu'elle juge tout et elle nous pénètre jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Seigneur, nous n'avons rien de caché. Tu es rentré dans le temple de Jérusalem et tu rentres dans notre temple. Nous sommes ton temple. Mais Seigneur, est-ce que notre vision de notre temple est la même que la tienne? Toi, tu nous dis, tu es mon corps, tu es saint, tu es très saint. Et parfois, Seigneur, nous voulons ménager les choses afin de nous faciliter la vie. Mais Seigneur, ta parole est claire. Puisses-tu nous aider à réformer nos voies si cela est nécessaire, à nous repentir, à mettre de l'ordre dans nos vies. Et surtout, Seigneur, à étendre le sanctuaire de Dieu. Étendre le sanctuaire de Dieu dans notre vie, dans notre maison, dans notre travail. Qu'en tout lieu où nous sommes, nous soyons saints parce que tu es saint. Et en étant saints, nous allons transformer ceux qui nous entourent. Que ta parole puisse parler à nos cœurs, Seigneur, c'est ma prière. Dans le nom de Jésus-Christ, amen, amen et amen. Que Dieu vous bénisse. Vous renouvelle et vous fortifie tout au long de cette semaine.